France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Nos invités ce matin, Sabine Devielle, Raphaël Pichon, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être là sur France Musique bon ce plaisir. Matin pour la naissance d'un nouveau disque. Sabine Devielle, je rappelle que vous êtes soprano, léger, l'une des grandes voix françaises. Tout le monde s'arrache. Sabine Devielle, désormais, Raphaël Pichon, chef d'orchestre, fondateur de l'ensemble Pygmalion, c'était il y a déjà 13 ans.
Quelque chose comme ça, oui.
Votre nouveau disque, Liberta, Mozart et l'Opéra, sort aujourd'hui même chez Harmonia Mundi, un disque soutenu par France Musique. Et pourtant, vous avez déjà beaucoup de projets très chauds en tête. Par exemple, vous, Sabine, vous répétez, j'imagine, ces jours-ci à Bastille. Vous serez à partir du 26 septembre sur scène pour les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, mise en scène par Clément Cogitor. On en reparlera sur France Musique à ce moment-là. Ça se passe bien, il vous fait danser?
Exactement, ouais, c'est une production qui est entièrement menée, j'ai envie de dire, bah, évidemment par Clément Cogitor, et puis une équipe de chanteurs jeunes et très enthousiastes, et surtout 30 danseurs absolument formidables qui sont en train de porter ce projet très très haut. Donc je recommande à tout le monde de venir découvrir ce projet. Je sais moi-même absolument pas à quoi va ressembler la production. On est vraiment dans un laboratoire au quotidien, mais oui, les répétitions se passent très bien, merci. Et je me réjouis de retrouver Rameau avec cette production vraiment très, très audacieuse.
Rendez-vous à partir du 26 septembre à Bastille. Vous, Raphaël Pichon, vous enregistrez dans quelques jours Bach, si je ne m'abuse, si on m'a bien informé, les motets. C'est pas un peu schizophrène? Parfois, vous allez parler toute la journée sur France Musique de Mozart. Vous sortez du Requiem à Aix et il faut se remettre dans Bach en même temps?
Non, ça fait partie un tout petit peu de ce métier, mais c'est au contraire quelque chose d'assez... assez excitant d'avoir à la fois en tête un projet en particulier et de pouvoir respirer avec d'autres. Et effectivement, en plus, il se trouve que ce projet Mozart n'est pas si loin, parce que je l'ai encore redonné en concert cet été, là il y a à peine 3 semaines au Festival de Salzbourg, juste en précédant sa sortie. Et effectivement, là dans quelques jours, nous rentrons en studio, nous terminons une petite tournée de concerts autour de l'intégrale des motets de Bach.
Et puis il y aura aussi Cavalli prochainement à Versailles à l'Opéra Comique, mais on en reparlera notamment avec les metteurs en scène Valérie Le Sor et Christian Eck, les géniaux metteurs en scène avec lesquels vous allez travailler, vous opinez du chef Raphaël. Liberta, Mozart et l'Opéra, j'ai dit que c'est un disque, mais non, c'est deux disques, en voici un premier extrait.
Torto!
Nokenon Sei Capace, je prononce bien Sabine?
À peu près, oui. Il y a de l'idée.
Vous êtes gentil. Wolfgang Amadeus Mozart, Sabine Devielle, l'orchestre, l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Extrait de ce disque, ce double album Liberta, Mozart et l'opéra qui paraît aujourd'hui chez Harmonia Mundi et pour lequel vous êtes avec nous ce matin sur France Musique. Encore un Mozart, avec vous deux, encore un projet qui sort... on va dire des sentiers battus, un projet inventé, imaginé, recherché. Quelle est
une nouvelle
l'idée,
histoire,
Raphaël ?
Une nouvelle histoire.
Une
effectivement,
histoire
nous avions avec Sabine eu cette première aventure autour des sœurs Weber il y a quelques années.
Que Mozart aimait toutes les deux.
Voilà, toutes les trois même. Enfin, oui. En tout cas, une relation très particulière avec cette famille Weber. Et ici, c'est une autre histoire. Une histoire passionnante et assez peu connue, qui est celle, si vous voulez, de la seconde naissance de Mozart, c'est-à-dire cette époque où Mozart décide de s'affranchir en tout point, de devenir un homme de son temps, un homme de son siècle, s'affranchir, c'est-à-dire s'affranchir de son père, de l'emprise de son père si célèbre. Ça veut dire de quitter la ville de Salzbourg pour s'installer à Vienne, où là tout se fait, où Vienne est sous le joug d'un certain Joseph II, qui est un être plein de bon sens, qui mène de nombreuses réformes, et qui est ce fameux Joseph II qui autorisa ensuite la transcription en version opéra des Noces de Figaro, avec le retentissement que cela aura aussi sur ce siècle. Et donc un Mozart qui s'affranchit aussi dans son langage musical, qui décide de chercher, et est en quête de devenir quelqu'un d'autre. Et pour cela, gratte, si vous voulez, gratte un certain nombre d'esquisses, gratte aussi en lisant, en se ruant sur tout ce qui se fait de meilleur dans et de moins bon d'ailleurs aussi dans les livrets de cette époque-là. Il cherche, il a différentes quêtes, et c'est cette époque où Mozart aussi entre dans la franc-maçonnerie, décide de s'engager aussi dans certaines grandes causes de son temps, et veut intégrer toutes ces valeurs et toutes ces utopies dans son propre théâtre et dans son propre opéra. Et voilà donc un double disque qui raconte en musique cette époque de laboratoire, avec beaucoup d'œuvres rares, plus ou moins rares, certaines que l'on connaît, et aussi certaines formes très différentes les unes des autres, à savoir l'air de concert, des extraits d'opéra inachevés, des canons, des nocturnes. Et je crois l'occasion de découvrir ou de redécouvrir, et aussi de comprendre à quel point cette époque de gestation est une époque où Mozart nous écrit déjà une musique d'une rare qualité. Et si vous voulez, c'est un peu cette naissance du drama giocoso, et cette naissance de cette excitation et de ce bouillonnement si particulier à la musique de Mozart, qu'ensuite on verra réaliser de façon assez unique dans ces trois opéras écrits en collaboration avec Da Ponte, que sont Les Noces de Figaro, Così et Don Giovanni.
Sabine Devielle, dans cet air de concert qu'on a entendu il y a quelques instants, on entend déjà, et c'est le cas sur ce disque, on entend déjà des choses, des Noces de Figaro, de Don Giovanni, de Così fan tutte. C'est ça aussi l'idée du disque, il y a quelque chose en gestation prémonitoire.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai l'impression que Mozart est un compositeur de génie pour offrir du théâtre pour toutes les typologies vocales. Moi qui suis soprano léger, on l'avait vu avec Raphaël Pygmalion et les sœurs Weber, que Mozart était formidable pour rendre des vocalises expressives. Donc ici, tout est donné à voir. On est aussi dans un air de fureur qui pourrait aussi rappeler celui de La Reine de la Nuit, évidemment. Puis je pense que l'histoire de ce disque aussi, c'est la gestation d'un grand partenariat entre Mozart et Da Ponte. Moi, j'ai découvert un autre grand partenariat entre un compositeur et un librettiste avec Strauss et Hofmannsthal, par exemple. C'est une vraie histoire d'amour, en tout cas par la lettre et par la beauté en musique du mot. Donc, chez Mozart et Da Ponte, c'est aussi une belle relation qu'on voit naître à travers ce disque.
Ces airs de concert, comme celui qu'on vient d'entendre, dans les années 1780 à Vienne, ils sont chantés dans quelles circonstances? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont d'ailleurs donnés devant du public?
Oui, oui, tout à fait. Ce sont des airs qui sont voués à être insérés dans des œuvres de ses contemporains. C'était aussi une façon pour Mozart de continuer à exister. Si vous voulez, ce disque couvre une période assez précise, qui est celle qui sépare l'enlèvement au sérail de la création des Noces de Figaro. Donc on est, alors c'est très précis, c'est un peu scientifique, mais on est entre 1782 et 1786. Et donc 5 années totales, qui sont les 5 années les plus longues dans l'histoire de Mozart, où celui-ci n'écrit pas de nouveaux projets d'opéra entiers. Et donc, une façon d'exister, c'est dans le cadre de reprises de certaines œuvres de ses contemporains, à la demande de certains chanteurs qui ne sont pas heureux, qui ne s'estiment pas assez mis en avant, mis en valeur par la musique, et qui demandent aux compositeurs célèbres de cette époque-là de Vienne, un des compositeurs célèbres, Mozart, de leur écrire un air de remplacement. Et d'ailleurs, souvent, l'histoire a fait le tri, puisque ce sont ces airs que l'on retient plus que les œuvres de ces fameux contemporains.
On parle de théâtre et de musique ce matin avec vous, Sabine de Vielle et Raphaël Pichon. Voici du théâtre, voici le directeur. Le début de l'ouverture, presque toute l'ouverture de ce directeur du théâtre. Je le dis en français, Raphaël, si vous voulez le dire en allemand, vous êtes bien.
Je suis le directeur.
Bravo. L'ensemble Pygmalion que vous dirigez dans ce disque, ce double disque Liberta, Mozart et l'opéra. Là, par exemple, ce directeur de théâtre, c'est un opéra que Mozart a écrit en entier.
Alors oui, mais c'est une forme un peu particulière, c'est une forme à mi-chemin entre le Singspiel et le théâtre parlé. C'est non seulement en 1783, effectivement, c'est un assez bon exemple. L'intrigue est très très réduite, puisque c'est une sorte de drôle d'histoire qui est déjà en vogue beaucoup à cette époque-là, tirée de pièce de théâtre qui s'appelait un peu toute l'impresario ou, et qui raconte l'histoire d'une audition de chanteurs les uns à la suite des autres et qui se disputent le premier rôle. Et ici, l'intrigue est assez ténue, et pourtant, Mozart écrit l'une de ses musiques les plus denses, les plus profondes, les plus riches. Et c'est aussi, à mon sens, la naissance de quelque chose d'essentiel dans la vie de Mozart, c'est la naissance du personnage orchestre. C'est-à-dire, c'est la naissance de cette décision que l'orchestre va prendre en charge une partie de la psychologie des personnages et installer tout un jeu de miroir entre le chanteur et l'orchestre pour donner des contours et une profondeur de champ à la psychologie des personnages que l'on retrouvera ensuite dans ces fameux dramas giocoso avec Da Ponte.
D'ailleurs, ici, dans cette ouverture, ça sent le théâtre. On le sent comme si on était dans les coulisses où vous êtes si souvent, Sabine de Vielle. Vous êtes fan, c'est votre compositeur préféré, vous le dites souvent. Est-ce que tout est bon dans cette période de Mozart? Est-ce qu'il n'y a pas des choses mauvaises à acheter puisqu'il explore?
Des choses mauvaises, je ne sais pas. En tout cas, il me plaît beaucoup d'explorer toutes les textures et les différentes orchestrations de Mozart et passer pour ce disque du nocturne au canon, aux grands airs de concert qui demandent une maîtrise technique exemplaire. Avoir le privilège de partager aussi ce disque avec cinq autres chanteurs formidables. C'est vrai que ça donne à voir à peu près toutes les textures que Mozart savait mettre en musique.
L'un et l'autre, vous êtes habitués à ces metteurs en scène qui inventent une nouvelle histoire à partir d'un opéra. C'est un peu ce que vous faites finalement. Vous inventez aussi une histoire imaginaire, d'ailleurs qui est décrite en trois parties, à partir de toutes ces pièces de Mozart, et ça fait une sorte d'opéra imaginaire.
Oui, je pense que finalement l'objet du disque a aussi besoin d'être un peu défendu. Il me plaît à penser que pour le public, on est en train de créer une petite complicité. Le public lors du concert de la tournée de sortie de ce disque, et puis aussi pour chez eux, à la maison, qu'ils puissent imaginer une scène, peut-être imaginer des décors, enfin en tout cas une action véritable avec des pièces qui sont parfois un peu décousues les unes entre les autres, mais qu'on a essayé de tisser les unes aux autres.
Raphaël Pichon, trois parties, trois portes d'entrée dans
oui,
ce laboratoire.
Alors cette histoire, elle n'a rien d'imaginaire, si je peux me permettre, puisque elle ne compte que l'histoire de Mozart lui-même. C'est-à-dire que il n'y a rien de totalement inventé dans ce que disque raconte. Il raconte à la fois l'histoire de Mozart lui-même et à la fois, encore une fois, la naissance de ce drama giocoso mozartien. Et effectivement, en découvrant toute cette littérature de cette époque-là. Et j'ai trouvé absolument frappant ce jeu de prémonition dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que telle pièce a déjà ce parfum qui pourrait ressembler à la sérénade de Don Juan, telle autre pièce à la scène du toast de Cosi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, encore une fois, cette idée un petit peu de gestation, d'où cette idée de restructurer ce disque en trois actes, en trois grandes scènes, dont chacune sera un parfum de l'un des trois opéras de la trilogie Da Ponte, et avec un petit clin d'œil en utilisant les ossias du titre de ces trilogies Da Ponte. On le sait pas toujours, mais effectivement, le Don Juan s'appelle aussi le débauché puni, ça donnera son titre dans le disque. Les Noces de Figaro, c'est plus célèbre, La folle journée, et Così fan tutte, et L'école des amants. Voilà, donc c'est ces trois clins d'œil, non pas dans une idée de vouloir absolument s'accrocher vaille que vaille à la dramaturgie des Da Ponte, mais juste pour évoquer un tout petit peu ce parfum, et aussi pour évoquer la naissance des grandes troupes viennoises. C'est une époque où l'empereur Joseph II décide de fonder une troupe italienne qui sera en charge du drama giocoso. Et effectivement, comme en parlait Sabine tout à l'heure, c'est l'époque où Mozart développe de façon très très poussée l'idée du sur-mesure, c'est-à-dire d'écrire sur-mesure pour des chanteurs qu'il connaissait et qu'il adulait.
Mozart, Liberta, beaucoup de Mozart, mais pas seulement. Il y a une plage que j'ai écoutée plusieurs fois sur votre double disque, je me suis dit, mais je connais ça, et je comprenais pas pourquoi je connaissais. Quel idiot, j'aurais dû lire le livret.
Yeah.
Extrait d'Una Cosa Rara de Solaire, avec tous les chanteurs qu'on peut peut-être citer, si vous les avez tous en tête, Raphaël, Sabine, Sabine de Vielle.
Donc, aux côtés de Sabine de Vielle, nous avons Chevonstack, une magnifique soprano lyrique australienne. Nous avons aussi Serena Malfi, vraiment un mezzo-soprano coloratour. Ensuite, nous avons Linhart Vrielink, qui serait un peu notre ténor de grâce. Et ensuite, nous avons les baritons basses John Chest, américain, et Nahuel Di Piero, grande bariton basse, et même presque grande basse argentine.
C'était pas pour vous tester, c'est juste parce que j'avais pas envie de prononcer tous ces noms et que vous les prononcez bien mieux que moi. Alors pourquoi cette musique, on la connaît, on l'a dans l'oreille? C'est parce qu'on la retrouve plus tard chez Mozart.
Sabine, oui, elle fait partie de la scène du... Ensuite, elle sera reprise, telle un peu un clin d'œil à l'actualité musicale de cette époque-là, l'actualité viennoise. Elle fait partie de la scène du banquet à la fin de Don Giovanni, quand nous avons cette petite musique de scène qui s'invite pour le banquet et qui joue à l'arrière-scène certains des grands extraits, enfin des extraits de certains des grands opéras à succès de cette époque-là.
Alors, sur ce disque, il y a aussi des airs qui ont été orchestrés. Vous allez choquer les puristes, Sabine.
Pourquoi on n'espère pas, non. Finalement, on disposait uniquement d'une partie de soprano, d'une partie de basse. Et l'intérêt pour faire notre petite cuisine interne, c'était de rendre hommage à ces pages absolument merveilleuses. Donc, parfois, on a fait appel à deux magnifiques arrangeurs, Vincent Manac et Pierre-Henri Dutronc. Je vous laisse juger de la pertinence de ces réalisations, mais
moi je suis pas choqué du tout.
Hein. Ah bah j'espère bien.
non, c'est excellent.
Il y a rien de nouveau dans cet exercice. C'est un exercice qui est maintenant très récurrent. Il faut bien, en plus parfois ces orchestrations sont déjà ébauchées, c'est-à-dire que c'est plutôt un travail de reconstruction qu'un réel travail d'orchestration. Même si effectivement cet exercice est toujours extrêmement difficile, on marche vraiment sur un fil, car Mozart a ce génie du naturel, c'est-à-dire de réussir à nous donner la sensation que tout ça est d'une limpidité et d'une évidence totale. Et effectivement, recréer ce sentiment de naturel n'est pas donné à tout le monde. Je crois que nous avons de la chance que ces deux orchestrateurs aient fait ça avec grand talent et grande fidélité.
Dans les couloirs de Mozart, c'est un mot que vous aimez bien, Raphaël Pichon, emprunter ces couloirs pour peut-être se préparer à ouvrir trois grandes portes, la trilogie. Est-ce que c'est assumé? C'est un disque qui permet de se préparer l'un et l'autre, Sabine de Vielle, Raphaël Pichon, à la suite?
Bien sûr, enfin en tout cas, c'est quelque chose ardemment désiré. Et je trouve qu'en étant extrêmement curieux et en voulant emmagasiner tout un tas de connaissances, mais aussi d'expériences, on fait des magnifiques découvertes. Et c'est une trajectoire qui est devenue un peu une sorte d'identité avec Pygmalion. Nous avions commencé un peu de cette façon-là avec le répertoire de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, avec le répertoire de Jean-Philippe Rameau, c'est aussi une aventure que nous sommes en train de débuter autour de la naissance de l'opéra en Italie, au carrefour des 16e et 17e siècles. Donc évidemment, bien sûr, c'est encore une fois un vœu pieux que d'un jour avoir la chance d'aborder cette trilogie, d'ailleurs, qui n'en est pas une, parce qu'elle n'a rien d'une trilogie, mais malgré, à part le librettiste, mais en tout cas de s'aventurer sur ces terrains-là, avec cette expérience et avec ses connaissances et avec aussi tous ces parfums qui nous permettent d'avoir aussi déjà quelques outils pour débuter une aventure comme celle-là.
Libertà, Mozart et l'opéra, double disque qui paraît aujourd'hui chez Harmonia Mundi. Raphaël Pichon, merci, vous revenez tout à l'heure à 15h chez Lionel Esparza, si, je vous assure. Sabine Devielle, vous allez repartir à Bastille.
Je serai là aussi à
pour
15
répéter.
Heures.
Ah, vous serez là, pardon,
oui,
on me l'avait pas
Lionel,
dit, je suis désolé.
Pas de souci.
Avec plaisir.
Je reviens avec plaisir.
Merci. Et après,
merci à vous.
Bastille,
après
Rameau,
Bastille.
À partir du 26 septembre. Vous, Raphaël, vous serez le 13 septembre à Ambronay pour les motets de Jean-Sébastien Bach, que vous enregistrez donc. Et puis Cavalier, on en reparlera, l'opéra comique. Bravo pour ce merveilleux disque. Voici la dernière plage, c'est vous qui l'avez choisi.
Sebaste, fuggi, ma dove, dove fuggirò da me stesso? Ma porto in seno il carnefice mio, dovunque io vada il terror, lo spavento, seguirà la mia traccia.
Un extrait, c'est frustrant, mais il faut acheter le disque pour connaître la suite. Così dunque tradisci. Tradisci, hein, c'est comme ça qu'on dit, Raphaël. Extrait de ce disque, Liberta, vous en reparlez tous les deux tout à l'heure à 15h chez
Nawel
Lionel.
Di Piero, le merveilleux.
J'allais le dire, évidemment. Merci Sabine Devielle,
merci
Raphaël Pichon.
À réécouter sur francemusique.fr.